Avec Hervé Gattegno pour la revue de presse. Bonjour Hervé.
Bonjour.
La plupart des journaux reviennent ce matin sur l'issue de la COP28 qui s'est conclue hier matin sur un accord appelant à la sortie progressive des énergies fossiles et les avis sont partagés.
Oui, c'est good cop ou bad cop selon les titres. Le baril de pétrole à moitié vide ou à moitié plein, je vous laisse le choix de la métaphore. L'accord qui redonne espoir, titre Le Parisien, un petit effort dans un monde de brut de pétrole, bien sûr, relativise Libération. Les Échos soulignent les limites d'un succès car l'accord conclu à Dubaï n'est pas contraignant et que les questions de financement et d'adaptation au réchauffement climatique restent largement sans réponse, écrit le journal. Les dernières nouvelles d'Alsace se réjouissent d'un climat d'espoir et l'opinion décrivant les bonnes fées de l'accord met en relief le rôle essentiel des grands pollueurs, la Chine et les États-Unis, et le talent de négociateur de Sultan Al-Jaber, le président émirati de cette COP, en qui tout le monde voyait un super lobbyiste des pétroliers.
Et comme pour faire la synthèse de tous ces avis, Ouest-France qualifie cette COP28 d'à la fois historique et insuffisante.
Oui, l'éditorialiste du quotidien souligne que pour la première fois, un accord mondial impose de s'éloigner des énergies fossiles et il rappelle ceci. Il y a 2 ans seulement, lors de la COP26 à Glasgow, seul l'avenir du charbon avait pu être abordé. Aller plus loin était jugé impensable à l'époque et tenu pour beaucoup pour inatteignable à Dubaï. C'est pourtant fait, le monde entre dans une nouvelle phase. Plutôt que de se morfondre sur ce qu'il manque dans le texte, regardons donc où il nous mène, conclut Ouest-France, et comment nous pourrions accélérer le pas.
Une autre façon de rompre avec le catastrophisme ambiant, c'est le magazine Elle qui publie un sondage d'où il ressort que le moral des Françaises est au beau fixe.
Malgré les guerres, le dérèglement climatique, l'inflation et on en passe, les Françaises restent optimistes, écrit l'hebdomadaire féminin. Chiffre présenté par l'Institut Opinionway, 70% des femmes situent leur moral au-dessus de 6 sur une échelle de 0 à 10. Un tiers se place même au-dessus de 8. Commentaire d'une spécialiste de l'étude des comportements, le moral n'est plus conditionné aux projections dans l'avenir. Depuis le Covid, une crise succède à une autre. On n'attend plus que ça passe pour profiter de la vie, on est dans le carpe diem. À noter que parmi les sources d'épanouissement citées par les femmes, c'est la vie familiale qui arrive en tête, loin derrière la présence du conjoint n'est citée que par 32% des femmes, juste devant l'animal de compagnie, 31%. La sexualité n'arrive qu'au 7e rang derrière les activités culturelles.
Et Pascal Pic me confiait en quittant ce studio qu'il était inquiet à l'idée d'une baisse de la libido mondiale. Alors, autre constat tiré de ce sondage, les femmes de plus de 50 ans situent le moment le plus heureux de leur vie autour de la trentaine. C'est triste.
Oui, et le plus difficile de leur vie autour de la quarantaine. Le magazine féminin en déduit que la question de la maternité et les injustices qui en découlent pour les femmes est pour elles une source de difficultés et de stress. Être mère est d'ailleurs considéré d'abord par les femmes comme une lourde responsabilité pour 91% d'entre elles, un bonheur quotidien pour 84%, donc c'est un peu moins, et augmente la charge mentale pour 76%. Comme un clin d'œil dissident dans le même numéro de Elle, l'actrice Léa Drucker confie avoir eu une deuxième vie après 40 ans et même ses meilleurs rôles après 50 ans. Elle raconte aussi un échange de regards appuyé avec Brad Pitt au dîner des Césars. L'acteur américain s'est approché et lui a murmuré à l'oreille qu'il est fan du Bureau des Légendes, la série d'espionnage française qui a fait connaître Léa Drucker aux États-Unis. La scène s'est terminée par un selfie.
Ah, j'ai eu peur, ça aurait pu se terminer.
Mais c'est mieux que rien.
Quelque chose de plus chaud. On ne sait pas ce qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se murmurent à l'oreille, mais c'est à eux deux, ensemble, qu'Emmanuel Macron a demandé de trouver une solution pour faire passer la loi sur l'immigration.
Oui, c'est un couple moins glamour qui, avant d'espérer trouver un compromis avec la droite sur le texte, doit trouver un moyen de travailler ensemble. Ces deux-là, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, ne partiraient pas en vacances ensemble, écrivent les Échos à la manière des commentateurs sportifs. C'est désormais une pression très forte qui s'exerce sur l'un comme sur l'autre, écrit le journal, et les voilà condamnés à s'entendre alors qu'ils divergent sur beaucoup de points. En réunion à Matignon lundi soir, après la motion de rejet votée à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur était partisan d'aller très vite et la première ministre, comme souvent, de prendre le temps, elle, de faire retomber les choses, raconte les Échos, avec ce détail édifiant. Le même soir, Gérald Darmanin n'aurait pas répondu aux appels téléphoniques d'Elisabeth Borne avant d'aller présenter sa démission à Emmanuel Macron. Macron, qui, on le sait, l'a refusé. Espérons que la communication entre eux est rétablie depuis.
Rien à voir avec ce qui précède. Deux enquêtes vous ont passionné, et ça ne m'étonne pas, dans la presse ce matin. Elles évoquent l'une et l'autre des trésors de l'édition.
Oui, deux articles exceptionnels. Dans Le Monde, d'abord, Jérôme Dupuis raconte comme un thriller le vol de plus de 200 planches originales des aventures de Blake et Mortimer, la fameuse BD d'Edgar P. Jacobs. Elle dormait dans un coffre-fort à Bruxelles. Un grand nombre a ressurgi chez des collectionneurs, dont l'original de la couverture de l'album mythique La Marque Jaune. Un juge belge mène l'enquête, la fraude est estimée à des millions d'euros. L'autre trésor, c'est le manuscrit original de l'archipel du Goulag, le monument de Solzhenitsyn publié en 1973, presque il y a 50 ans, jour pour jour. Dans Le Point, François-Guillaume Laurin révèle comment l'écrivain russe dissident fit sortir clandestinement les précieux feuillets et le rôle secret joué dans cette opération par une diplomate française. L'intrigue est haletante, ce n'est pas du Solzhenitsyn, mais presque du John le Carré. L'article est titré « Le dernier secret de l'archipel du Goulag », il aurait pu s'appeler « Le manuscrit qui venait du froid ». C'est un grand moment d'histoire et un sacré bon moment de journalisme.
À lire sur Le Point et Hervé Gattegno à écouter tous les jours sur Radio Classique du lundi au vendredi à 8h30, un peu après. Merci Hervé.
À demain.
Allez, dans un instant, c'est jeudi, on retrouve Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre, que nous avons surnommé notre événement du jeudi.